Philosophie éthique, l'éthique chrétienne, par le père Marie-Dominique Philippe, le 23 octobre 1998, à Saint-Jean-d'Arc.
Alors, il y a toute une série de questions. C'est bien, parce que le problème est très délicat. Le statut d'une éthique chrétienne au plan philosophique. Analogue, je vous dis ça parce que ça aide au point de vue art chrétien, politique chrétienne, philosophie chrétienne, tout ça, c'est l'adjectif chrétien. Est-il accidentel? Est-il essentiel? Et question de critique. Mais d'une critique qui nous aide à saisir la vérité. Et c'est difficile. Bon, est-ce qu'on peut accepter un art chrétien? Je crois. Je crois que c'est difficile de refuser l'art chrétien. Quand vous entrez à Chartres, difficile de dire que c'est pas une architecture chrétienne. Quand vous en voyez certains tableaux flamands sur la descente de croix, c'est difficile de dire que c'est pas de l'art chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la question du sujet seulement, c'est l'esprit, c'est la foi. Alors, la foi implique l'incarnation. Puisque la foi implique l'incarnation, le Verbe est devenu chair. La sensibilité est donc transformée par le mystère de Dieu dans l'incarnation. La sensibilité du Christ n'est pas une sensibilité purement humaine. Elle est humaine. Elle est éminemment humaine. Elle est plus. Et par le corps du Christ. Et la résurrection. Que cette amitié avec Dieu va aller très loin, puisque un jour, son corps ressuscitera. Pour le croyant, c'est une vérité plus certaine que toutes les autres. Passer toutes les autres certitudes. Alors, je n'ai pas le droit de passer outre. Je dois voir clair, là. Il y a une possibilité d'une philosophie chrétienne. Ça veut dire que je peux, à l'égard de ce qui m'est révélé sur ma destinée propre, je dois comprendre tous un sens. Le logos existe. C'est un logos très particulier. Un pied d'un côté, le pied de l'autre. Un pied sur l'homme et l'autre sur la parole de Dieu. Alors, quelle différence y a-t-il entre la théologie et la philosophie? Éthique chrétienne, c'est la philosophie. Et puis, il y a une théologie morale. Alors, la théologie morale part de la foi, assume l'homme. Le philosophe part de l'homme et regarde ce qui est transformé dans l'homme par la grâce. C'est sûr qu'un chrétien meurt autrement qu'un non-chrétien, explicitement. C'est sûr que le chrétien, quand il vit une vie religieuse, affirme que s'il n'était pas chrétien, il ne resterait pas 3 jours au couvent. Il reviendrait peut-être en disant, après tout, c'est pas plus mal autre part. Mais il serait pas très religieux. L'enjeu est très important. L'enjeu est très important. On a parlé de philosophie chrétienne comme si le mot chrétien envisageait toute la philosophie. Non, c'est faux. C'est la philosophie pratique. C'est pas la philosophie spéculative. Il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Puisque la grâce présuppose la nature. Si la grâce ne présupposait pas la nature, la grâce me donnerait un être nouveau. Elle me donne une nouvelle fin, mais pas un être nouveau. C'est pour ça qu'il peut y avoir une éthique chrétienne. Il ne peut pas y avoir de métaphysique chrétienne. Il ne peut pas y avoir une philosophie de nature chrétienne. Il ne peut pas y avoir une philosophie de la vie chrétienne. Quoique certains problèmes chrétiens viennent jeter une certaine lumière sur ma philosophie de la vie. Ça, je ne peux pas nier. Alors, on va regarder ça. Si le point de départ de toute philosophie est l'expérience, quel est donc le point de départ de l'éthique chrétienne? Car je n'ai aucune expérience du Christ en tant que philosophe. C'est sûr. Mais, en tant qu'homme, vous pouvez dire, le Christ a existé. Voyez, prenez l'analogie de Socrate. Tous les philosophes moralistes grecs ont tourné autour de Socrate. Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, tous, allusion à Socrate. Pourquoi? Parce que l'homme a vécu de telle manière qu'il s'est présenté comme un homme qui me faisait découvrir quelque chose de l'homme que je ne découvrais pas dans les autres. La mort de Socrate. Vous voyez, la causalité exemplaire prend une signification très grande pour l'éthique. Pas pour la métaphysique. Socrate n'a pas changé est-ce que la résurrection ne donne pas une nouvelle dimension à l'être? Alors ce serait la métaphysique de la résurrection. Alors là, votre objection est très juste. Je n'ai pas l'expérience métaphysique de la résurrection. J'y crois. Je n'ai pas l'expérience. Quand je suis malade, je n'ai pas d'expérience métaphysique de la résurrection. Quand je vieillis, je n'ai pas d'expérience métaphysique de la résurrection. Mais j'ai l'expérience de la vieillesse. C'est très juste. Une philosophie chrétienne part de l'expérience. Une éthique chrétienne part de l'expérience. L'homme. J'ai rencontré des chrétiens dans ma vie. Et si moi-même je suis chrétien, je me rencontre tout le temps. Je porte avec moi mon terrain d'atterrissage. Je porte avec moi mon laboratoire. Et je sais que certains actes dans ma vie, je les pose comme chrétien et non pas comme homme. Et je fais la distinction. Si j'entre dans la vie religieuse, je ne le fais pas comme philosophe, mais comme chrétien. Et puis progressivement, je m'aperçois que si je suis chrétien dans la vie religieuse, je découvre en moi, comme homme, certains approfondissements que je n'avais jamais découverts avant. Je découvre comme l'intelligence est toute faite pour Dieu. Ça, c'est une découverte philosophique chrétienne. C'est une découverte chrétienne qui vient donner une nouvelle dimension.
Le levain de la grâce
lever une patte humaine. Cette patte humaine, j'en ai l'expérience. Et je vois qu'il y a donc une nouvelle dimension humaine qui me permet de dire qu'il y a une éthique chrétienne. Mais c'est par les effets de la grâce. C'est pas le mystère de la grâce. Le théologien, lui, commence par le mystère de la grâce. Vous voyez, j'allais dire que la philosophie éthique est phénoménologique pour l'aspect chrétien. Je regarde le chrétien en philosophe de l'extérieur, pas de l'intérieur. Donc, phénomène, le logique, le logos du phénomène, le logos du phénomène chrétien. Le phénomène chrétien existe en moi. Et c'est ce phénomène chrétien que j'étudie. Donc, au fond, c'est ça qui est très curieux. C'est que l'éthique chrétienne montre un aspect descriptif de la vie chrétienne, sans connaître le principe propre. Et cet aspect descriptif est une sorte de phénoménologie humaine. Je regarde ce qui se manifeste en moi en tant que chrétien. Et le théologien, lui, de théologie chrétienne, lui, part de la foi, et donc c'est le principe. Pouvez-vous expliciter pourquoi vous avez dit que c'est la philosophie, que c'est le philosophe chrétien qui peut faire une éthique chrétienne? Un simple philosophe ne peut-il pas parler de la foi en éthique chrétienne comme pour une topique, comme une phénoménologie? J'étudie le phénomène chrétien dans l'homme. Alors là, c'est vrai. Même si je ne suis pas chrétien. Mais si je suis chrétien, j'ai un laissez-passer. J'ai quand même une expérience intime de la vie chrétienne que le non-chrétien n'a pas. Et cette expérience intime de la vie chrétienne me permet d'aller beaucoup plus loin dans l'éthique chrétienne. Parce qu'au fond, au point de vue philosophique, il y a toujours les deux expériences, l'expérience externe et l'expérience interne. Le chrétien fait une expérience interne de sa vie humaine qui peut l'aider à faire une philosophie de sa vie chrétienne. Le philosophe connaît à partir de son expérience. Il me semble donc que pour une réflexion sur l'éthique chrétienne soit véritable, et j'allais dire que soit vraiment œuvre du philosophe, il faudrait soit la dépasser, soit la comprendre de l'intérieur. C'est-à-dire avoir une expérience interne de cette nouvelle finalité. Sinon, elle restera très extérieure. Elle restera phénoménologique. Qui dit phénoménologique dit le logos du phénomène. Du phénomène comme tel. La patte se lève. Je n'étudie pas le ferment de la pâte, mais je vois le phénomène, cette pâte qui monte. Cette pâte humaine monte. J'étudie les effets dans mon intelligence de ma foi. La foi ne détruit pas mon intelligence. La foi ne détruit pas la raison. Mais elle met quelque chose que sans la foi, je ne pourrais jamais rien dire. Mais grâce à la foi, je peux. Sinon, elle resterait très extérieure, pas tout à fait, pas entièrement. Et étant donné que pour cela, il faut la foi, quelle est donc la différence entre une étude sur l'éthique chrétienne du point de vue philosophique et une sorte de critique en théologie sur la vie chrétienne? Pouvez-vous préciser? Très bien, ça. Je peux faire une critique de ma vie chrétienne en philosophe dans une vision de sagesse. Et donc, je montrerai que toute la transformation qui se fait en moi grâce à ma vie chrétienne, cette transformation prend en moi ce qu'il y a de plus humain et laisse tomber ce qu'il y a d'animal. C'est donc l'aspect spécifiquement spirituel de ma vie humaine qui est transformé. Donc le meilleur de ma vie humaine. Alors je comprends très bien que quelqu'un qui veut faire uniquement la philosophie des passions dira la vie chrétienne dépasse les passions. Et la vie chrétienne transforme aussi les passions. Et elle prend des passions, c'est ce qu'il y a de meilleur. L'irascible, ça peut être terrible. On peut arriver à tuer quelqu'un en colère. Mais l'irascible donne la force. Quelqu'un qui n'aurait pas d'irascible serait mou, n'aurait aucune force. Donc, même la grâce transforme les passions. L'instinct, alors là, c'est la question plus délicate. L'instinct, la vie chrétienne peut réclamer le célibat. La vie chrétienne peut réclamer dans la vie religieuse les conseils évangéliques. Le dépassement par rapport au mariage. Alors, je compare, et aujourd'hui c'est ce qu'on devrait faire, je compare le dépassement de la famille dans ces lois nouvelles et le dépassement de la famille dans la vie religieuse. Ce serait très intéressant. Alors, vous acceptez philosophique, le dépassement par le bas, qui n'est pas un dépassement. Et vous n'acceptez pas, au point de vue philosophique, le dépassement par le haut. Ce serait le plaidoyer magnifique de la vie religieuse aujourd'hui. Et il faudra le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, toutes les lois qui se font essaient de montrer que la famille est quelque chose de relatif. Qu'il n'y a pas que la famille. Il peut y avoir d'autres communautés. Des communautés de toute espèce. Reconnaître comme communauté humaine le point de vue de l'homosexualité, que ce soit reconnu par la loi, qu'il ne soit pas toujours en dehors. C'est ça que j'appelle le dépassement par le bas. Parce que au sens fort. Il n'y a pas de fondement naturel. Il y a, par le point de vue de la jouissance, par le point de vue de, mettons même de la joie, de l'épanouissement, il y a un certain désir de reconnaître cela comme humain. Et oui, c'est en dehors de la morale classique. Dite classique. Je prends la communauté religieuse, puisque constamment, on fait le parallèle. La vie religieuse fait un dépassement par le haut. Si je garde la chasteté, si je vis un célibat consacré à Dieu, c'est pour aimer plus le Christ, c'est pour être davantage tout à lui. Donc c'est un dépassement de la famille. Et c'est vrai, c'est une communauté qui peut être rivale de la famille. Comme dans l'homosexualité, peut-être rival de la famille. Toutes les deux ne sont plus directement, si je les étudie au point de vue philosophique, un dépassement de la communauté naturelle, fondamentale de la famille. Il y a un dépassement par le haut, un dépassement par le bas. Mais toutes les deux impliquent ce dépassement. Et c'est ça qui serait très important à étudier, de voir comment le dépassement par le haut permet à l'homme d'être plus homme. Comment le dépassement par le bas permet-il encore à l'homme d'être plus homme, ou au contraire, de l'être moins, parce que c'est la passion qu'on canonise, parce que c'est la passion qu'on exalte. Alors peut-être, au niveau passionnel, il y aura quelque chose de très grand, mais qui restera au niveau passionnel, qui est infra-humain. Tandis que l'autre est surhumain. Oui, ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et comment on peut voir qu'une communauté religieuse reste une communauté humaine. Parce que elle réclame de l'homme dépassement qui reste humain. Ce dépassement n'est pas inférieur à l'homme, n'est pas passionnel, n'est pas purement passionnel. Il implique quelque chose d'autre. Alors, dernière question. Humaine. distinguons le fait, l'exercice, de fait, oui. En droit, non. Je crois qu'il faut faire la distinction nette entre les deux. De fait, il est bien évident que ma foi m'aide énormément dans ma recherche métaphysique et dans ma recherche de sagesse. Et le cours de ce matin, quand je regarde Thomas d'Aquin, ça m'aide, ça m'intéresse. C'est un grand bonhomme qui est servi de sa foi, qui est servi de sa métaphysique. Et je me pose la question, est-ce que mon intelligence sapientiale qui a découvert Dieu doit-elle le suivre dans ce chemin de croyant, ou doit-elle au contraire dire, ah non, ça c'est propre. Est-ce que dire Dieu est tout à fait simple? Est-ce une conclusion strictement de foi? Est-elle une conclusion de sagesse humaine? Pour moi, c'est une conclusion de sagesse humaine. C'est pas une conclusion de foi. Le théologien peut donc l'affirmer comme théologien de théologie scientifique. Et le philosophe métaphysicien peut l'affirmer comme le terme de toute son enquête sur le mystère de Dieu. Il se rencontre là. Vous n'allez pas me dire, seul, celui qui est croyant peut dire ça, non. Mais je peux dire que, de fait, il est très difficile aujourd'hui de maintenir une métaphysique très pure, de maintenir un cours sur les manières d'être de Dieu quand je vis dans le monde. Dans un monde qui n'est plus chrétien, dans un monde qui ne recherche plus la vérité, ça m'est très difficile. Mais c'est pas parce que ça m'est très difficile que je ne peux pas le faire. Je peux y arriver, mais c'est très difficile. J'y arriverai très rarement. Et je peux. Alors vous voyez, c'est pour ça que c'est très délicat. La foi va conforter mon intelligence dans la recherche de la vérité. Mais ce n'est pas la foi qui permet à mon intelligence de s'éveiller dans la recherche de la vérité. Ce n'est pas la foi seule qui permet à l'intelligence de s'éveiller dans la recherche de la vérité. L'intelligence humaine et la vie humaine suffit à l'homme pour comprendre que son intelligence est faite pour la recherche de la vérité. Mais les conditions humaines aujourd'hui sont telles que c'est très difficile pour l'homme de rechercher la vérité dans le monde. Et je faisais cette expérience quand j'enseignais à Paris, à l'ULSH. Je voyais des étudiants arriver par le métro, de droite et de gauche, entrer en métaphysique. La disposition à la métaphysique n'est pas le métro. Là, c'est bien évident. Un petit moine sort de sa cellule pour faire de la métaphysique. Tout en lui le dispose à ça. lui, quand il s'agit d'un étudiant qui vit à Paris, tout en lui le dispose à faire de la musique. Non. Il faut un effort particulièrement grand pour sortir de toutes ces difficultés. Donc, vous voyez, distinguons le milieu dans lequel on exerce son travail philosophique et l'intelligence considérée en elle-même, dans sa propre nature, ordonnée à la vérité. L'éveil de mon intelligence par rapport à la vérité peut se faire purement humainement. Il peut se faire aussi grâce au contexte chrétien dans laquelle je vis. Alors, je dois distinguer les motivations, comme on dit, et puis ce qui spécifie, ce qui détermine mon intelligence à juger la vérité, reste purement humain et peut très bien se développer dans un contexte purement humain. Et c'est justement cela qui me fait comprendre que la métaphysique est en elle-même indépendante de la foi. Elle n'est pas subalternée à la foi. Elle reste indépendante. Mais dans son exercice, dans sa croissance, le milieu dans lequel se fait cette croissance et cet exercice joue un rôle très important. Et c'est pour ça que l'encyclique, qui veut être quelque chose de pratique, peut donner cette impression que, de fait, cette sagesse philosophique ne pourra donner toute sa vérité, ses explications, que dans un certain contexte chrétien. Mais cela ne veut pas dire que une philosophie, une théologie naturelle dépend nécessairement de la foi. Non. Pour croître, le climat de la foi est merveilleux. Ça permet le bene vivere. Ça permet une recherche qui est plus facile que si j'étais dans un milieu athée. Du matin jusqu'au soir, j'entendrai des choses contre Dieu. Petit à petit, ça rentre. Mais il faut maintenir que mon intelligence, par elle-même, est capable de découvrir l'existence de Dieu. Et donc, par elle-même, elle est capable de devenir sagesse. Et chaque fois que le pape parle de philosophie, sagesse, il parle d'une philosophie qui, normalement, dans son développement propre, peut découvrir l'existence de Dieu. Une philosophie qui, en raison de ce qu'elle est, le marxisme, ne peut pas aboutir à la sagesse, parce que par elle-même, elle ne peut pas aboutir à la preuve fixante de Dieu. Donc, elle ne peut pas être sapientiale. Elle restera toujours une philosophie repliée sur l'humain. Et il faut bien distinguer les deux, l'exercice et la spécification. La spécification permet de préciser la nature d'une chose. L'exercice précise le contexte. Le contexte dans lequel se réalise cette chose. Et ce contexte est très important pour le développement d'un habitus. Mais ne me fais pas comprendre ce qu'est cette faculté. je pourrais dire, voyez, que l'éthique chrétienne existe comme une philosophie qui emprunte à quelque chose qui dépasse l'homme, la matière qu'elle regarde, ou par son expérience propre, ou par l'expérience des autres. Et donc, elle est proche d'une phénoménologie, parce qu'elle ne pourra jamais saisir les principes propres de la vie chrétienne, mais elle me donne d'une manière descriptive ce phénomène chrétien qui transforme l'homme et qui donne à l'homme une nouvelle dimension. Personne ne m'interdit d'étudier ça et de le décrire, mais je ne pourrais pas en faire l'analyse scientifique, donc philosophique.